Bonjour à tous. Alors ce matin, je voudrais prêcher sur trois textes. Et le premier se trouve dans Luc 18, les versets 15 à 17. Mais avant de commencer la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi encore une fois pour te demander ton secours. Nous te prions de disposer nos cœurs afin que tu puisses y faire résonner ta parole. Nous te prions de nous conduire et de me conduire tout particulièrement dans ces textes et dans leur explication. Amen. Luc 18, versets 15 à 17. On amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche, c'est-à-dire qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait, et Jésus les appela et dit: « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Deuxième passage en Marc 11, les versets 15 à 17, sont des événements qui sont tenus peu après, à Jérusalem, dans le temple. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne faisait laisser personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et enfin, un dernier passage en Ésaïe 56. Il s'agit de retrouver cette citation que Jésus a faite. Ésaïe 56, les sept premiers versets. Il s'agit d'une prophétie, donc. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas: voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Aujourd'hui, nous allons méditer principalement sur le premier texte de Luc 18, les versets 1 à 6. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des petits-enfants. Nous attendons bien sûr la venue du royaume de Dieu au retour de Jésus-Christ. Son retour marquera l'avènement de son royaume éternel. Mais dès maintenant, nous pouvons ressentir par moments, quand les chrétiens se rassemblent, quand Jésus-Christ et Dieu le Père sont honorés, nous pouvons ressentir cette réalité du royaume. Je me souviens d'une réunion à laquelle nous avions assisté, je crois que c'est Christian Duguet qui nous avait amenés à Lunel, à quelques-uns, et c'était un groupe d'ex-musulmans qui venaient de Marseille et qui venaient témoigner de leur foi en Jésus. Et quand le responsable du groupe a commencé à parler, témoignant de la bonté de Dieu, de l'amour et de la puissance de son Fils Jésus-Christ, comme d'une évidence qui le remplissait de joie, j'ai été frappé et je me suis dit, le royaume de Dieu est là. Des témoignages ont suivi, des chants aussi. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient les plus à l'aise dans l'expression orale ou dans le chant, mais ils manifestaient autour d'eux le royaume de Dieu. Cela ne faisait aucun doute et cela m'a fait chaud au cœur. Ce sont là des moments que nous vivons aussi en Église et auxquels nous aspirons tous, la joie, la foi, l'amour. Quand Jésus exerçait son ministère en Israël, il en était de même. Les gens ressentaient cette atmosphère extraordinaire qui régnait autour de Jésus et ils aspiraient à traverser le cercle de la foule et celui des disciples pour toucher Jésus, pour lui parler. Si ce n'était pas le royaume de Dieu, en tout cas, ça en était bien l'antichambre. Alors, quelques mots maintenant sur le contexte de ces événements. Jésus se trouvait probablement, en cette période de printemps, en Judée, de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire pas très loin de Jérusalem, à l'est de Jérusalem, mais plutôt dans la Jordanie actuelle. Les passages qui précèdent le montrent descendant de Galilée au nord, depuis Capernaum, et longeant la Samarie. Les passages qui suivent ces événements le montrent progressant vers Jérusalem, par Jéricho, où il rencontrera Zachée, le collecteur d'impôts, et où il trouvera sur sa route aussi Bartimée, l'aveugle, puis par Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, où les disciples iront chercher l'anon sur lequel Jésus va monter pour son entrée triomphale dans Jérusalem, le jour des rameaux. Et ensuite, un jour après, la venue de Jésus à Jérusalem sera suivie par son intervention manu militari dans le temple pour en chasser les vendeurs. Jésus est donc à la fin de son ministère terrestre, que l'on estime généralement à 3 ans, et les disciples autour de Jésus sont donc maintenant bien rodés. Ils ont acquis de l'expérience auprès de Jésus. Ils sont partis 2 par 2 prêcher la repentance dans les villages de Galilée, vivant par la foi, chassant les démons, guérissant les malades. Ils ont vécu cette expérience exaltante de la mission. Ils ont assisté au grand discours de Jésus au bord du lac de Galilée, avec Pierre qui était chargé de manœuvrer la barque pour que Jésus puisse s'adresser à la foule dans de bonnes conditions. Ils ont fait asseoir aussi les 5000 hommes avec leurs familles en rang de 100 et de 50 pour les nourrir. Ils ont aussi vécu les moments extrêmement tendus où Jésus était tout près de se faire arrêter, de se faire mettre à mort à l'instigation des chefs religieux. Et on voit au cours de ce ministère que plusieurs fois, lorsque des personnes cherchent aide ou audience auprès de Jésus, elles s'adressent d'abord aux disciples qui assurent le premier contact. Alors, entrons maintenant dans la méditation de ce passage qui parle de cette question essentielle de l'entrée dans le royaume de Dieu. Alors, je vous propose trois parties. Je comparerai l'accès au royaume de Dieu à l'accès à une salle de banquet, comme on en trouve de magnifiques dans les masses de la région. Le jour de la fête, un jour de mariage par exemple, on franchit d'abord le portail en montrant patte blanche auprès du service d'ordre. Alors, franchir le portail, c'est mon premier point. Et on arrive ensuite dans la cour du mas, et là, c'est le vin d'honneur, c'est l'antichambre du banquet. On entend la musique, les invités sont bien habillés, ils déambulent. L'antichambre du royaume, c'est mon deuxième point. Et on entre enfin dans la salle du banquet, et là, c'est encore une autre dimension, la salle est immense. Le décor est magnifique, les convives, le repas, tout nous impressionne. On est comme au ciel. La salle du banquet, voilà mon troisième point. Alors, premier point, franchir le portail. Et on va voir ici pourquoi Jésus reprend les disciples dans leur manière de contrôler l'accès au royaume de Dieu. Quelles étaient les motivations des disciples pour agir ainsi ? On peut penser qu'ils voulaient tout d'abord préserver Jésus des importuns. Les disciples assurent en effet une sorte de service d'ordre à Jésus. Ainsi, en Jean 12, au verset 20, on voit que quelques Grecs abordent le disciple Philippe pour lui demander avec insistance une audience auprès de Jésus. Philippe en parle d'abord à André, puis les deux se décident enfin à en parler à Jésus. Mais Jésus ne donne pas suite, car l'heure n'est plus aux vaines discussions. Mais cela montre que les disciples contrôlaient plus ou moins l'accès à Jésus, même si des fois cet accès était forcé, c'était une bonne chose. Et là, justement, ils considèrent que la demande de ces personnes qui amènent aussi des enfants n'est pas du niveau de Jésus. Ils n'ont pas de graves maladies. Ils ne sont pas des influenceurs comme les pharisiens avec qui Jésus s'est entretenu peu avant. Ce ne sont pas non plus des chefs comme le jeune homme riche avec qui Jésus discutera juste après. Ce sont des petits-enfants. Il n'y a pour eux pas de motif particulier pour que Jésus les rencontre. En tout cas, c'est ce qu'eux pensent. Et c'est ainsi que les disciples, en toute bonne conscience, sont pris en flagrant délit de faire le contraire de ce pourquoi ils sont missionnés. Alors, qu'auraient-ils dû faire? La clé se trouve dans une leçon que les disciples ont reçue de Jésus quelque temps avant. Jésus a pris la peine de prendre du temps avec eux pour leur enseigner un principe spirituel fondamental. En effet, en chemin sur la route de Capernaum, les disciples avaient discuté de savoir qui était le plus grand. Arrivé à destination, Jésus s'est assis avec eux. Il a pris un petit enfant qu'il a placé au milieu d'eux. Il l'a pris ensuite dans ses bras. Et il a dit, « Quiconque reçoit à mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Marc 9, 37. Les disciples ont fait du bon travail durant le ministère de Jésus, par la grâce de Dieu. Ils ont tout quitté pour lui. Ils ont répandu son message. Ils l'ont attesté par des guérisons et par des délivrances. Ils l'ont assisté dans les choses matérielles pour qu'il puisse faire ses discours, pour les distributions de nourriture, pour qu'il puisse lui-même manger, même si parfois ils oubliaient le pain. Ils le feront encore en allant lui chercher l'annon pour son entrée à Jérusalem et en préparant aussi le repas de la Pâque. Mais tant qu'ils n'auront pas compris que le service du Maître est un service pour lequel on n'attend rien en retour, sinon son approbation, et un service tourné vers ceux qui n'ont absolument rien à apporter pour leur salut, ils seront des serviteurs inaptes, des serviteurs qui feront écran à la grâce de Dieu, à sa compassion, à sa guérison, à son pouvoir de relèvement. Voilà, pour nous qui sommes aussi des disciples de Jésus-Christ, que Dieu nous donne beaucoup de joie à faire ce qui ne se voit pas, pour révéler à ceux qui s'en sentent parfaitement indignes la présence de Jésus et la réconciliation avec notre Père céleste. Une parole d'accueil, une parole d'encouragement, un coup de fil, un SMS, une carte, une prière, une parole de connaissance, un petit service, un peu de ménage, le réglage de la sonorisation, la programmation du chauffage, autant de gestes d'accueil qui ouvriront le cercle du royaume de Dieu à ceux qui n'imaginaient pas y avoir accès. Bien sûr, dans le royaume de Dieu, on commence souvent par de petites choses, mais Dieu nous appelle à des grandes. Il ne s'agit donc pas de se limiter dans le service, mais il s'agit plutôt d'être toujours prêt à revenir à l'humble service des plus petits. Mais justement, que nous disent ces enfants du royaume de Dieu, ce royaume de Dieu aujourd'hui parmi nous? C'est le point 2, l'antichambre du royaume. Dans leur façon d'être, les petits-enfants reflètent bien ceux qui sont aptes à entrer dans le royaume de Dieu. « Laissez venir à moi les petits-enfants, dit Jésus, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent », nous est-il dit au verset 16. Les enfants nous montrent également ce que l'on peut attendre de cette antichambre du royaume de Dieu. Voici en effet ce que la Bible dit des petits-enfants. J'ai noté quelques versets dans les évangiles. Matthieu 18, verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Un petit-enfant est humble. Il ne vient pas devant les hommes avec ses états de service, avec son curriculum vitae, ni avec sa science, ni avec sa force. Au contraire, il fait confiance à ceux qui s'occupent de lui. Marc 9, verset 36, « Et Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras. » Un petit enfant se sent en sécurité lorsqu'il est entouré de l'affection des adultes. Matthieu 21, verset 15, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses que Jésus avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle. » La louange des enfants plaît à Dieu. Comprennent-ils toujours le sens de ce qu'ils chantent? Pas sûr, mais ils chantent de tout leur cœur. Et enfin, Luc 1, verset 76, Zacharie qui dit à Jean-Baptiste, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Un enfant est appelé à grandir. » Un enfant a un avenir. On voit que les enfants sont démunis face aux adultes. Ils en sont conscients. On comprend donc qu'ils sont les parfaits exemples de ce que Dieu attend de ceux qui viennent à lui. Regardons maintenant les récits qui encadrent cette rencontre de Jésus avec les enfants. Dans la parabole que Jésus donne juste avant, il met en scène deux personnes qui viennent prier au temple, l'un publicain, pécheur, et l'autre pharisien, persuadé d'être juste. Ce pharisien tout imbu de lui-même et qui énumère toutes les bonnes œuvres qu'il a faites, fait sourire. On voit bien qu'il n'a aucune chance d'impressionner Dieu. Non, venir à Jésus avec de bonnes œuvres pour être sauvé, ce n'est pas la bonne solution. Et dans le passage qui vient juste après, on voit le jeune homme riche qui vient, lui, humblement auprès de Jésus pour connaître la voie de la vie éternelle. Mais lui aussi est trop chargé, non de bonnes œuvres, il n'en fait pas cas, mais de richesses auxquelles il ne veut pas renoncer. Non, on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec ses bagages. On n'entre pas dans le royaume de Dieu avec ses prétentions. On n'entre pas dans le royaume de Dieu en enfilant un habit neuf sur un habit sale. De ces trois passages qui se succèdent en Luc 18, seuls les petits-enfants obtiennent l'assentiment de Jésus. Seuls ils bénéficient de sa main bénissante et de sa prière. Pour illustrer le fait que l'on doit s'approcher de Jésus comme un petit enfant, je voudrais citer ce témoignage que j'ai lu il y a quelques années d'un enfant soldat. Je ne sais plus si c'était en Afrique centrale ou en Afrique australe. Cet enfant réquisitionné de force et amené à faire les pires exactions, était devenu un chef de troupe dans une armée rebelle. Un jour, lui et sa troupe sont informés qu'une réunion d'évangélisation va se tenir dans un village et ils se chargent d'aller y semer la mort. Ils arrivent ce soir-là, repèrent l'édifice et l'entourent sans bruit. Pour mieux préparer l'attaque, le jeune homme entre dans la salle discrètement. Et là, il entend le prédicateur dénoncer toutes les horreurs du péché qui nous sépare de Dieu. « J'ai été trahi, pense-t-il, il parle de moi. » Soudain, mal à l'aise, il reste figé au fond de la salle pendant que le prédicateur continue de parler. Et lorsque ce dernier annonce qu'il va inviter tous ceux qui veulent donner leur vie à Christ à avancer vers l'estrade pour que l'on prie pour eux, le jeune homme, sans attendre, se précipite vers l'estrade et saisit les chevilles du prédicateur. Et il ne les lâche pas. Il n'a pas compris grand-chose à ce que le prédicateur a expliqué. Il n'est pas en mesure de formuler une quelconque demande. Mais il a saisi une chose, c'est que le salut est là, maintenant, et qu'il a terriblement besoin de ce salut. Et ce jeune homme qui n'avait déjà, à son âge, plus aucun espoir dans cette vie, a saisi ce salut. Il a reçu là Jésus dans son cœur et est devenu ensuite, par la grâce de Dieu, un serviteur zélé. Chers amis, si l'un parmi vous ne s'est pas encore approché de Jésus, s'il n'a pas mis sa vie sous sa protection, eh bien qu'il le fasse aujourd'hui même. Il n'y a rien à apporter, mais il faut renoncer à tout. Et plus on prend de l'âge, plus c'est difficile. Mais dans ce cercle du royaume, dans cette antichambre du royaume de Dieu à venir, il y a la présence de Jésus qui nous connaît, qui nous comprend, qui nous guide. Il y a son affection. Il y a l'affection des frères et des sœurs. Il y a la joie. Il y a une joie profonde, simple, vraie, qui s'exprime en particulier dans les cantiques que l'on va chanter ou qu'on va simplement écouter sur Internet, qu'on va savourer de tout son cœur. Oui, cela vaut la peine d'abandonner toutes nos prétentions et nos possessions, même s'il en coûte. Et pour aller plus loin dans la grâce de Dieu, qui nous accueille dans son royaume, je voudrais revenir sur le passage où Jésus a chassé les marchands du temple. Le temple était vraiment l'antichambre du royaume de Dieu ce jour-là. Jésus s'y trouvait. des aveugles et des boiteux aussi, ils ont été guéris, nous rapportent certains évangiles. Des enfants étaient là, et ils ont crié en l'honneur de Jésus, « Hosanna au fils de David ». Et Jésus a dit, en répondant au sacrificateur, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière ?» Eh bien, cela est effectivement écrit dans le passage d'Ésaïe 56 que nous avons lu aussi, et cela va continuer à nous éclairer sur le royaume à venir et les places que nous y occuperons. C'est donc le point 3, la salle du banquet. On entre dans le royaume, oui, mais après. Et les versets 1 à 7 d'Ésaïe 57 sont des prophéties destinées au peuple d'Israël. Elles peuvent s'appliquer à plusieurs situations à venir, mais ces versets décrivent bien néanmoins l'ordre qui règnera dans le royaume éternel de Dieu. Tous sont appelés, mais certains sont particulièrement encouragés à s'approcher. Les étrangers, ceux qui ne font pas partie de la famille originelle d'Israël et qui se demandent s'ils sont bien des citoyens à part entière du royaume. Et les eunuques, plus largement ceux qui ne pourront pas avoir d'enfants et qui ne se voient pas d'avenir enviable dans ce royaume. Deux catégories de personnes qui s'approchent du temple, cette maison de prière qu'a cité Jésus, et que nous pouvons comparer à cette maison des croyants où le royaume de Dieu est présent, parce que Dieu y est présent, parce qu'il y est respecté, parce qu'il y est adoré, parce qu'il est prié, parce que sa grâce et sa puissance s'y manifestent. Deux catégories de personnes donc qui se disent « ce n'est pas pour moi, ce ne sera jamais pour moi ». Alors le prophète fait des promesses, mais des promesses sous condition. En voici quelques-unes. « Si vous observez ce qui est droit, si vous pratiquez ce qui est juste devant Dieu, si vous gardez le sabbat pour ne point le profaner, ou encore si vous choisissez de faire ce qui est agréable à Dieu, non pas ce qui nous est agréable à nous, mais ce qui est agréable à Dieu d'abord. » Et la liste continue. Peut-être pourrions-nous dire à ce stade, comme les disciples, qui donc peut être sauvé ? Alors rassurons-nous, ce ne sont pas de listes vraiment dont il est question. Ce ne sont pas comme les listes de verbes irréguliers. C'est d'un élan du cœur dont il est question. C'est l'aveugle Bartimée qui jette son manteau pour courir vers Jésus. C'est Zachée qui se dépêche de descendre de son arbre pour accueillir Jésus chez lui. Mais dans cet élan, il y a une volonté, il y a un désir profond de plaire à Dieu, de lui être agréable. Alors à ces personnes qui semblent les plus sceptiques sur la possibilité de vivre pleinement ce royaume, voici les promesses de Dieu. D'abord aux eunuques, Dieu promet, vous aurez une place, vous aurez un nom préférable à des fils et des filles. En d'autres termes, vous aurez un titre qui sera reconnu par tous et qui sera irrévocable. Vous aurez une position. Ensuite, aux étrangers, Dieu affirme, je les amènerai sur ma montagne sainte, là où se trouvait le temple. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs prières seront entendues. Dieu y répondra, car ma maison de prière, dit l'Éternel, sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ce passage nous montre que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de citoyens de seconde zone. Chacun aura un nom, une place qui lui correspondra parfaitement. Chacun aura un libre accès à Dieu, le Père, et bénéficiera de son attention et de sa bonté. Qu'il en soit déjà de même dans notre Église. Oui, bien sûr, les prémices s'y trouvent, afin que tous ceux qui s'approchent humblement et résolument du Seigneur, y trouve non seulement le salut, mais aussi la joie, la reconnaissance de ce qu'ils sont et l'écoute. Alors, en conclusion, je voudrais dire, rappeler ces trois choses. Les disciples de Jésus-Christ ne doivent pas être des obstacles pour ceux qui cherchent sincèrement à s'approcher de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ. En faisant modestement un travail qui ne se voit pas forcément, en s'abstenant de préjugés, ils ouvriront l'espace qui mène à Christ. Pour ceux qui cherchent Jésus, sachez qu'ils se laissent trouver par ceux qui viennent avec un cœur humble, comme celui d'un petit enfant, sans chercher à apporter quoi que ce soit, mais étant prêts aussi à renoncer à tout. Ceux-là trouveront dès maintenant la présence de Jésus, son salut bien sûr, mais aussi ses bénédictions, son affection, sa joie. Oui, cela en vaut la peine. Et enfin, pour tous ceux qui attendent désormais la révélation complète de ce royaume, que ce soit depuis longtemps ou que ce soit depuis peu, soyez assurés que chacun aura sa place, que chacun sera reconnu, que chacun aura désormais une parfaite relation avec Dieu le Père. Alors travaillons à l'avènement de ce royaume, c'est un privilège. Amen. Et je laisse la place à Rémi.